Vous écoutez, on lit pour vous.
Les effets de l'alcool sous la loupe, un texte de Marie-Josée Roy paru dans Bel Âge. Nous sommes nombreux à trinquer en famille et entre amis, mais que savons-nous réellement des effets de l'alcool sur notre organisme? Voici quelques pistes d'information. Comment réagit le corps à l'alcool? La réponse est multifactorielle. Cela varie d'une personne à l'autre selon différents critères comme le sexe, l'état de santé, les habitudes de consommation et la quantité d'alcool consommée, affirme la docteure Catherine de Montigny, spécialisée en médecine de toxicomanie au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. L'alcool agit de plusieurs façons sur notre organisme, d'où une variété de réactions possibles. À court terme, une série d'effets pas tous agréables. Euphorie ou effet de relaxation, vue brouillée, réaction ralentie, émotion exacerbée, somnolence, nausée ou vomissement, perte d'équilibre et difficulté à marcher, élocution difficile, troubles de l'attention, de la concentration et du jugement, déprime ou colère, perte de mémoire, intensification des symptômes liés à la ménopause ou à l'andropause, bouffée de chaleur, insomnie, troubles de la mémoire. À plus long terme, la consommation d'alcool augmente le risque de développer plusieurs maladies graves, dont certains cancers, colorectal, du sein, de la bouche, du pharynx, du larynx, de l'œsophage et du foie. Une cirrhose, une pancréatite, voire d'autres maladies gastro-intestinales, des maladies infectieuses, pneumonie, tuberculose, des maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle, AVC, troubles du rythme cardiaque, l'épilepsie, des troubles cognitifs, démence, troubles de la mémoire, le diabète de type 2. Sexe, génétique et santé. Le métabolisme de l'alcool diffère d'un sexe à l'autre. Les femmes sont plus affectées en raison de leur pourcentage de gras plus élevé que chez les hommes, explique la docteure de Montigny. La génétique a aussi son rôle à jouer, car les enzymes, les hormones et les neurotransmetteurs influencent la façon dont l'alcool interagit avec les organes. L'état de santé général et la prise de médicaments affectent aussi le métabolisme de l'alcool, tout comme le fait d'avoir mangé ou pas. Il est toujours préférable de ne pas avoir l'estomac vide quand on prend une consommation, ajoute la médecin. L'âge est aussi un facteur. Avec les années, le métabolisme ralentit et devient plus sensible aux effets de l'alcool. À quantité égale d'alcool consommé, les personnes âgées obtiennent une alcoolémie plus élevée que ce qui est observé chez les plus jeunes, mentionne-t-on sur le site web d'Éducalcool, un organisme sans but lucratif qui œuvre à encourager une consommation éclairée. Cette réalité s'explique par le fait que l'organisme des aînés élimine moins efficacement l'alcool en raison du ralentissement de certains organes comme le foie, les reins et le cerveau. Il y a plein d'effets collatéraux auxquels on ne pense pas toujours, rappelle la docteure de Montigny. La consommation d'alcool augmente le risque de chute, qui est déjà bien plus grand avec l'âge. L'alcool peut aussi jouer un rôle dans les troubles neurocognitifs. Si l'ivresse permet parfois de sombrer dans un sommeil de plomb, elle est loin de garantir une bonne nuit. En effet, la consommation d'alcool affecte la qualité du sommeil et peut aggraver les symptômes de l'apnée du sommeil, de même que l'insomnie. La personne peut s'endormir rapidement, mais elle ne profitera pas d'un sommeil réparateur, explique la docteure de Montigny. L'alcool empêche notamment les états de sommeil plus profonds. Qu'est-ce qu'une consommation modérée? Si la modération a bien meilleur goût, encore faut-il savoir à quoi elle correspond. Il faut individualiser cette question-là, affirme la docteure de Montigny. Même une consommation qu'on considère à faible risque en comporte. Chaque personne doit se demander quel genre de risque elle est prête à prendre et quelles sont les conséquences de sa consommation, tant sur sa sécurité que sur sa santé physique et mentale. C'est important de prendre conscience de sa consommation. C'est à chaque personne d'en discuter avec un professionnel de la santé pour voir ce qui, pour elle, représente un faible risque. En 2023, le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, CCDUS, a recommandé les quantités suivantes dans un rapport remis à Santé Canada. Risque faible, 1 ou 2 verres standards par semaine. Risque modéré, 3 à 6 verres standards par semaine. Risque de plus en plus élevé, 7 verres standards ou plus par semaine. Un verre standard, c'est 140 ml, 5 onces de vin, 12% d'alcool, 340 ml, 12 onces de bière, de cidre ou de prêt-à-boire, 5% d'alcool, 45 ml, 1,5 onces de spiritueux, 40% d'alcool. C'était « Les effets de l'alcool sous la loupe », un texte de Marie-Josée Roy paru dans Bel Âge.
Bonne nouvelle pour les livres québécois. Un texte d'Alain McKenna, paru le 11 décembre 2024 dans La Presse. Les ventes de livres neufs au Québec sont à leur plus haut niveau depuis 10 ans. À peu près tous les indicateurs sont au vert, sauf celui des livres numériques, dont les ventes ont reculé entre 2022 et 2023. Bonne ou mauvaise nouvelle? Le repli, ou en tout cas un certain plafonnement des ventes de livres numériques, est une bonne nouvelle si on ne considère le numérique que comme une menace pour les industries culturelles québécoises. On peut le penser. Les géants étrangers de la musique et de la vidéo ont provoqué une dégringolade des revenus de nombreux artistes et créateurs d'ici. Ces plateformes privilégient les produits de divertissement américains ou anglophones. Cela amplifie l'effet de dumping culturel qu'on constatait déjà il y a 40 ans à la télé, au cinéma et à la radio. Selon l'Observatoire de la culture et des communications du Québec, il s'est vendu 6,5 % moins de livres numériques par les entrepôts et les agrégateurs québécois en 2023 qu'en 2022. Les livres numériques étrangers achetés autrement et les services à volonté comme Kindle Unlimited d'Amazon ou Kobo Plus de Rakuten ne sont pas comptabilisés. Ce sont pourtant là les deux Netflix du livre. Amazon vend 2 livres numériques sur 3 dans le monde. Ce recul du livre numérique pourrait donc être considéré comme une occasion ratée. En valeur pécuniaire, le numérique représente 1,5 % des revenus de l'industrie du livre au Québec. Peut-être y a-t-il encore un leader à trouver dans le numérique qui n'a pas besoin d'être étranger. Car les plateformes étrangères n'offriront probablement jamais la même découvrabilité qu'une librairie aux livres québécois. Vitrine québécoise. Cela dit, il existe dans le numérique des façons d'encourager l'industrie québécoise du livre. La plus attrayante est l'emprunt, puisque c'est gratuit. Le prêt numérique compte 1 million de livres québécois, 40 000 livres audio et 25 000 livres en anglais. C'est le site vers lequel une majorité de bibliothèques québécoises renvoie leurs membres qui désirent emprunter la version numérique des livres qu'elles tiennent en catalogue. Quelques autres bibliothèques passent par le site Overdrive. L'offre de livres en français y est toutefois beaucoup plus limitée. On emprunte un livre numérique de la même façon qu'à la bibliothèque, avec sa carte de membre. Les livres empruntés ont une date d'échéance et sont disponibles en quantité limitée. Il faut parfois attendre qu'un titre populaire soit à nouveau disponible avant de l'emprunter. Pour des vacances dans le sud pendant les fêtes, pour la semaine de relâche à venir ou pour n'importe quel autre moment de l'année, en fait, vous finirez généralement par trouver un bon livre qui ne vous coûtera rien. L'autre option est évidemment d'acheter un livre numérique sur le site des libraires québécois. Maintenant qu'Archambault appartient à Renaud-Bray, ce groupe est devenu le géant québécois incontesté du livre. Sinon, il y a le site leslibraires.ca où environ 110 libraires indépendants vendent des livres en papier ou numérique au choix. Si vous êtes un lecteur assidu et exigeant, vous pouvez combiner l'emprunt et l'achat et payer moins cher à la fin de l'année que pour un abonnement annuel à une plateforme de livres à volonté. La bonne liseuse. Il vous faudra quand même une liseuse. Une tablette ou un téléphone ont des écrans pas très doux pour les yeux. Une liseuse à écran e-ink, elle, si. Même sous la lumière d'un soleil de plomb, et une autonomie de quelques semaines est de loin supérieure à celle d'une tablette. En plus, cette année, le choix est plus varié, pour ne pas dire coloré, que jamais. Justement, le fabricant japonais Rakuten propose deux Kobo à écran e-ink couleur. Les teintes sont un peu fades, mais les jaquettes de livres en couleur sont plus naturelles. La Clara Color de 6 pouces coûte 160 $ et a tout ce qu'il faut, y compris la récitation de livres audio. La Libra Color fait 7 pouces, coûte 250 $ et est compatible avec un stylet pour la prise de notes. On peut déposer des livres empruntés sur prêt numérique sur les Kobo. Pour environ 150 $, Amazon vend une toute nouvelle Kindle de 6 pouces qui vient avec 16 Go de stockage. C'est suffisant pour 7000 livres. Son affichage est monochrome, mais très lumineux. Les Kindle peuvent recevoir des livres empruntés sur OverDrive, mais pas sur prêt numérique. Toutes les liseuses acceptent les livres que vous achetez sur leslibraires.ca ou sur un site de librairie. Amazon offre de convertir le format de fichier EPUB pour qu'on puisse lire ce format sur une Kindle. Pas besoin de vous attacher à une seule plateforme, donc. Ce qui, quand on y pense, est la meilleure façon de lutter contre les géants numériques. C'était Bonne nouvelle pour les livres québécois, un texte d'Alain McKenna, paru le 11 décembre 2024 dans La Presse.
Eugénisme et nazisme font chanceler notre foi en l'humanité, un texte de Paul-François Sylvestre, paru le 9 novembre 2024 dans l'Express. Pour mieux faire connaître le fait que les nazis ont enlevé de 300 000 à 400 000 enfants à leur famille, Annie Lavoie décrit le cas d'une Danoise victime de la politique allemande d'eugénisme. Son roman « La petite fille du Lebensborn » livre tout un pan méconnu de la Seconde Guerre mondiale. L'étymologie du mot « eugénisme » est grecque. « Eu »« bien » et « genao » engendrer », ce qui signifie littéralement « bien-être ». Il définit l'ensemble des méthodes et pratiques visant à sélectionner le patrimoine génétique des générations futures d'une population en fonction d'un cadre de sélection prédéfini, comme la primauté de la race aryenne. Eugénisme et nazisme ont souvent été jumelés. Une race pure. La protagoniste du roman est Annalise Andersen, 4 ans, yeux bleus, cheveux blonds. Elle demeure à Skagen, la ville la plus au nord du Jutland, au Danemark. Le 2 septembre 1943, elle est arrachée de force à sa mère et conduite à la gare au son d'un orchestre de pleurs, cris et gémissements. Destination, le Lebensborn de Végimont, en Belgique. Le terme « Lebensborn » est un néologisme formé à partir de « Leben », vie, et « Born », fontaine, en allemand ancien. Gérées par les SS, ces fontaines de vie visaient à accélérer la création et le développement d'une race aryenne parfaitement pure et dominante. Montréal 2013. Les chapitres alternent entre les années 1943-1944 et 1957, en Europe, d'une part, et l'année 2013 à Montréal, d'autre part. La romancière décrit avec force détail l'enfance et l'adolescence de la Danoise, qui refuse d'apprendre l'allemand, mais qui s'initie au français. En 2013, ce sont les révélations de la septuagénaire Annalise qui agissent comme un page-turner. Annie Lavoie peint le rigoureux processus de sélection aryenne auquel Annalise est soumise, puis son adoption par une famille de Strasbourg, ensuite son installation à Paris et, enfin, la recherche de sa famille naturelle au Danemark. Blond aux yeux bleus. Le roman rappelle que le régime d'Hitler valorisait les blonds aux yeux bleus, comme Annalise, et que la Scandinavie en était peuplée. Le bébé ou l'enfant restait au Lebensborn en vue de se faire adopter par une famille au sang nordique supérieur. À l'époque, des milliers de familles allemandes désiraient adopter un enfant de bonne race. Les enfants qualifiés de racialement supérieurs étaient séparés des autres, qu'on renvoyait à la gare. Annalise croyait qu'ils retrouveraient leur famille. Elle les enviait. En réalité, ils étaient envoyés à Birkenau ou Ravensbrück. Ils ont tous été exterminés à leur arrivée là-bas. Hommage aux enfants. Juste avant d'être adoptée par une famille allemande de Strasbourg, Annalise fréquente le Lebensborn de La Morlaix, caché dans la forêt de Chantilly. Il s'agit de la seule institution du genre en territoire français. Une infirmière s'attache à elle et lui enseigne le français. La petite fille du Lebensborn est un roman qui repose sur une rigoureuse recherche historique et sur des rebondissements psychologiques finement ciselés. J'y vois un hommage à tous ces enfants, innocentes victimes, qui ont survécu à une guérilla émotionnelle et qui ont conservé leur foi en l'humanité en dépit de tout. C'était « Eugénisme et nazisme font chanceler notre foi en l'humanité », un texte de Paul-François Sylvestre, paru le 9 novembre 2024 dans l'Express.
Vivre. Le compte à rebours. Opération Arche de Noé. Un texte de Christian Demeul, paru le 2 mars 2024 dans Le Devoir. Dans un futur peut-être pas si lointain, marquée par les dérèglements climatiques, la prolifération incontrôlée de l'intelligence artificielle qui a fait bondir l'ignorance et la bêtise, l'humanité est soudainement entrée dans un temps inversé. Visitée dans son sommeil par une entité intelligente agissante, Paolo, un Parisien d'une quarantaine d'années, professeur de mathématiques à l'université, sera forcé de constater, après avoir aperçu dans la rue un mystérieux signe de ralliement, J780, que son étrange vision relève davantage de la réalité que du cauchemar. Car, tout comme lui, d'autres individus choisis ont été contactés par des extraterrestres pour sauver l'humanité d'une extinction liée à une catastrophe naturelle imminente. Ces appelés, comme plusieurs centaines de millions d'hommes et de femmes, auront la possibilité de migrer sur une autre planète. Du premier signe de ralliement jusqu'au gong final, le narrateur de Vivre. Le conte à rebours nous raconte ces deux années pré-apocalyptiques. Devant cette menace et la perspective d'un exode planétaire, on imagine que l'humanité, fragile et désunie, saura offrir un front unique. Pas si vite. Si Boualem Sansal feint de croire que notre salut pourrait venir de l'espace, comme un miracle venu d'en haut, c'est pour mieux souligner nos dissensions. Et la dystopie qu'il imagine au cœur de ce nouveau roman, son dixième, mélange de science-fiction et d'anticipation apocalyptique, met au jour les malfonctions et les fanatismes, les anciens comme les nouveaux, qui gangrènent encore et toujours l'humanité. Joint chez lui, à Boumerdès, une ville côtière située à 45 km à l'est d'Alger, la capitale du pays, l'écrivain, né en 1949, poursuit en français une œuvre remarquée. « Je suis algérien, je vis en Algérie, le français fait partie de notre histoire. Je suis né français, à une époque où l'Algérie était française. Je m'exprime dans la langue avec laquelle j'ai le plus de facilité, et mes livres ne pouvaient pas être publiés en Algérie, alors je les ai publiés à l'étranger. Ça aurait pu être en Belgique ou au Canada. Ce sont les hasards de la vie. » Connaissance et douleur. L'écrivain s'était déjà adonné à l'anticipation dystopique avec 2084. La fin du monde, Gallimard, 2015, Grand Prix du roman de l'Académie française, avant d'être consacré meilleur livre de l'année par le magazine Lire. Une fable orwellienne, à travers laquelle il dénonçait les dérives du radicalisme religieux qui menace nos démocraties. Ingénieur formé à l'École nationale polytechnique d'Alger, Boualem Sansal détient également un doctorat en économie. Ancien haut fonctionnaire dans son pays, il a été limogé en 2003 pour ses prises de position critiques contre le pouvoir en place. Depuis « Le serment des barbares », en 1999, une chronique amère des années de guerre civile en Algérie, il remet en question, à sa façon, à travers ses romans et ses essais, le monde dans lequel il vit. Pour autant, aborde-t-il la littérature en scientifique? « Je le suis resté », confirme Boualem Sansal. « J'ai une véritable passion pour les mathématiques. Je travaille toujours mes mathématiques. Je n'ai pas l'impression de raisonner comme un littéraire. J'ai un raisonnement très linéaire. Des faits, des causes, un résultat. D'ailleurs, l'écrivain reconnaît mettre très peu d'émotion dans ses romans, essayant plutôt chaque fois d'analyser les choses froidement, comme on examine un problème de physique ou de chimie. Or, bien nommer les choses les rend dangereuses, nous rappelle le narrateur, avant de citer l'Ecclésiaste, « Celui qui augmente sa science augmente sa douleur. » Sur une échelle de 1 à 10, par rapport à ce qu'il croit savoir du monde, où se situe la douleur qu'éprouverait l'écrivain? « Elle est très grande, » répond sans hésiter Boualem Sansal. « Elle est vraiment très grande. » Il y a une hiérarchie des causes, il est certain, mais au-delà de sa petite personne, on voit bien que le monde est très malade. Et ça, c'est une vraie souffrance. Avec le réchauffement climatique, les crises économiques, les guerres qui éclatent un peu partout, on vit dans la souffrance. Mais c'est une souffrance qui peut être raisonnée, ajoute-t-il, estimant encore qu'il existe des solutions pour faire face aux catastrophes naturelles et aux dictatures. L'ignorance, comme le disait George Orwell dans 1984, c'est aussi la liberté. Si je ne sais pas, je vis tranquillement. Mais la connaissance n'est pas tout. Nous sommes tous conscients, révoltés. Mais combien agissent? Combien possèdent le courage et la détermination? Très peu, répond-il, prenant comme exemple tous les gouvernements qui, depuis 1990, semble faire la sourde oreille aux alertes lancées par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. L'art de ne pas vivre ensemble. Comment procéder pour sélectionner ceux qui auront la chance d'être sauvés? Par tirage au sort, au feeling, sur étude du dossier, par quota? Paolo et son groupe, dans le roman, iront consulter des représentants des grands monothéismes. Pour un imam, toute terre dans l'univers est terre d'Allah. Mourir ici ou ailleurs est égal. Allah décide de l'heure et du lieu de notre retour à lui. Et si Allah envoie un vaisseau pour sauver les hommes, c'est aux musulmans qu'il l'envoie. Selon le rabbin, tout aussi stoïque, il est dans le destin des Juifs d'être dispersés dans le monde. Même bien engagé dans l'engrenage du décompte final, Paolo reste lucide. Jamais, à notre connaissance, homme sur terre n'a été tué par un quelconque malheur céleste. La vraie menace est domestique. Notre terre mourra de ses maladies propres ou des turpitudes de ses habitants. L'islam, les religions en général, l'école et l'université, et même le wokisme, ont droit à plusieurs coups de griffe dans le roman. Boualem Sansal, tout comme son narrateur, estime que l'homme est sa propre limite. Plus il avance, plus il accélère sa fin. Dans le roman, la fin de la Terre et de l'humanité est le résultat de causes extérieures, stellaires ou extraterrestres. Mais dans la réalité, la nôtre, la menace est bel et bien humaine. C'est-à-dire qu'elle émane de nous, de nos comportements et de nos façons de penser, de notre impossibilité, semble-t-il, à vivre ensemble. Aujourd'hui, l'humanité serait-elle seulement capable de se sauver elle-même, de se refaire sans intervention céleste? Sachant, comme il est dit dans le roman, que l'homme de demain, nous le connaissons, c'est l'homme d'aujourd'hui qui est le fils de ses aïeux. Si l'humanité avait cette capacité, poursuit-il, elle l'aurait déjà fait. Mais la souffrance n'a fait que croître. C'est assez désespérant. Nous sommes notre propre bourreau. C'est sur ce terreau fertile, rappelle Boualem Sansal, qu'ont germé toutes les religions, qui offrent à chacun la perspective individuelle et rassurante d'être sauvé après la mort. Une fiction dans laquelle, pour sa part, le romancier refuse de se laisser embarquer. Les gens vont croire au miracle jusqu'à la dernière minute. C'était Vivre, le compte à rebours, Opération Arche de Noé. Un texte de Christian Demeul, paru le 2 mars 2024 dans Le Devoir.